Chapitre 4. Trois partis politiques représentaient l'ensemble des Athéniens. En nombre, le moins important était celui des riches propriétaires qu'on appelait gens de la plaine, pédiéis, partisans de l'oligarchie et pour cause. L'autre était le parti des gens de la mer, côte, paraloi. Ils allaient à la pêche, en mer ou trouvaient dans la construction des navires. Ils travaillaient comme charpentiers, menuisiers, ouvriers forgerons, tailleurs de voiles. Ils ne s'opposaient pas franchement aux riches qui leur donnaient des commandes, et de ce fait, ils prenaient la modération. Juste un peu de démocratie, pas trop. Enfin, les gens de la montagne, Diakloï, les plus pauvres parce qu'ils travaillaient dur pour tirer de quoi vivre parmi tant de cailloux. Or, c'est parmi eux qu'on trouvait le plus de démocrates. Non seulement ils cherchaient du pouvoir politique, mais ils avaient senti en Pisistrate un centre d'hommes providentiel proche de Solon, en partie par la famille et surtout par les idées. Solon les avait libérés du fardeau, et Pisistrate tenait ouvertement pour l'application stricte de cette loi, pas assez respectée, souvent contestée par les créanciers frustrés. Moi, je n'étais que du bourg de Colonne. Mon père maçon n'était pas très riche. Ma mère était à la maison, comme toute bonne Athénienne dévouée à son mari et à moi, son fils unique. Elle était musicienne et gagnait un peu d'argent dans les repas de fête. Je fréquentais Pisistrate, on le sait, tout en faisant partie de ses copains de famille modeste. Souvent, Pisistrate et moi allions visiter les Diacriens qui vivent à travers les hauteurs. Nous les écoutions afin de comprendre leurs difficultés, parce que Pisistrate avait toujours eu pitié des malheureux. Cependant, leur ténacité dans le labeur, leur lutte face aux difficultés de la vie, la misère de tout petit nous rendait impatients de pouvoir les aider, de les voir arriver aux magistratures et défendre leur cause déplorable. Il faut absolument que ça change, me disait Pisistrate, et je ne pouvais qu'abonder dans son sens. Tu en fais un peu trop, lui dit un jour Solon. Comment ça, un peu trop? Oui, je le répète. Certes, ces gens sont pauvres, mais surtout, ils n'ont aucune idée politique de leur valeur. Ils n'ont que de la haine à satisfaire. Ils viennent en ville afin d'y semer le désordre, d'exiger toujours plus. Ils protestent, refusent tous les règlements, réclament sans cesse de l'aide. Oh, il est vrai que mes lois leur ont donné un peu plus de droits. Cependant, je n'ai pas voulu leur en accorder autant qu'aux habitants de la ville. Je concède que la montagne ne produit que des fruits de qualité médiocres, des chèvres, que les terrains sont ingrats, maigres, et que même les moutons n'y engraissent pas, et les porcs encore moins. En tout cas, tes visites parmi eux ne font que les exciter, comme les autres parties. Voilà en quoi je te dis que tu en fais trop. Solon, mon maître, je sais le respect que je te dois. Bien, c'est dit. Mais ce n'est pas une raison pour m'empêcher de vouloir aller vers les malheureux. Ils sont des Athéniens comme les gens de la plaine ou de la côte. Ils voient les fêtes, mais de loin. Ils n'ont presque pas de quoi se vêtir. On les moque, on les prend pour des Béotiens ignorants. On fait tout pour les dégoûter. Par les rues, quand ils y viennent, on les traite de pécores, crasseux, malotrus. Je ne supporte pas cela. Honte aux citadins. Je veux une démocratie véritable, une démocratie pour tous, vraiment tous. C'est clair. Pourquoi me le reprocher? Bon, d'une certaine manière, tu n'as pas tort. Mais l'humanité n'est pas égale. Dans leur hameau, il n'y a pas d'école. Les gens, gamins, travaillent dès leur plus jeune âge, restent bourrus et grossiers. Je n'y pouvais rien. Enfin, si, mais j'ai hésité. Car donner du pouvoir à des incompétents. Justement, toi tu n'as rien osé dans ce domaine et je me sens le devoir sacré d'y remédier. Les pauvres, les indigents de la montagne sont citoyens à part entière, que tu le veuilles ou non. Comme toi, je suis né dans une classe favorisée, grâce aux dieux. Eux non. C'est injuste. Le hasard de la naissance ne doit pas se payer par une misère inacceptable. Athènes doit passer aux yeux des étrangers pour une ville exemplaire. Je dois agir afin que cette misère disparaisse. J'en fais trop, dis-tu. Peut-être, mais je continuerai coûte que coûte malgré tes remontrances. Tu as de l'aisance, moi aussi. La démocratie, c'est le pouvoir de vivre correctement dans tous les domaines. Et j'insiste, tous les domaines. Il fait rentrer le progrès, montrer au monde que dans l'Attique même, les pauvres peuvent vivre correctement, qu'ils prennent part à un régime égalitaire et honnête, où chacun a le droit de parler. Tant pis si j'en fais trop d'après toi. J'y tiens. C'est instituer les classes censitaires, comme l'élection des archontes aux seuls riches, créer le conseil des 400. Je ne discute pas tes améliorations pour supprimer les lois trop dures de Dracon. Or, cette apparence de démocratie reste insuffisante à mes yeux. Je trouve que tu as manqué de générosité, de souplesse, d'audace. Passons. Je constate que mes leçons ne portent plus. Oh, je te laisse prendre de graves responsabilités. Donner tous les droits à un peuple entier, sans distinction de classe, risque de créer de la confusion, un désordre permanent, de la violence, des discussions interminables, des règlements de compte. J'ai tant d'affection pour toi que je redoute de te voir aboutir à une tyrannie. D'autres pays ont payé ça très cher. Bref, je t'aurais mis en garde. Les paroles du vieux sage émurent Pisistrate, qui me les rapporta. La tyrannie, peut-être. Il verrait si cela aurait Athènes à grandir. Et pourquoi pas cette tyrannie? Après tout, lui disais-je, si Tacos à Mytilène, Périandre à Corinthe, d'autres encore ont réussi des réformes plus ou moins discutables. Oui, tant pis, à toi d'analyser de près une situation nouvelle pour Athènes. Il se promit d'en mesurer les conséquences. Lui et moi en reparlerions beaucoup avec nos vieux copains de jadis dans la rue. Il faudrait leur persuader l'armée, les stratèges, se donner pour nécessaire aux yeux du peuple, se faire réclamer. Les peuples sont versatiles, l'histoire donne des preuves à foison. L'essentiel et de les séduire ensuite, le problème sera de se maintenir en place. Il s'en chargerait au besoin par la force. Il me chargea de convertir les cavaliers d'une mission. En pleine agora, de jour en jour, Pisistrate entama sa course au pouvoir. Par grandes envolées, truffées d'une rhétorique bien apprise à l'école, il ameuta, critiqua les aristocrates, le parti des riches, celui de la côte, les désordres courant dans les réunions de l'aréopage, les bagarres dans l'ecclésia, la misère qui continuait chez les petits. Et puis on ne devait pas oublier son action contre les mégariens, la victoire remportée justement au nom du peuple. Il était désormais plus tolérable que les gens de la montagne meurent de faim pendant que les riches, toujours plus riches, fissent la pluie et le beau temps. Athéniens, votre ami Pisistrate s'adresse à vous, le seul qui ne parle que pour vous tous. Moi, Pisistrate, je suis les vôtres, à jamais, même si mes ancêtres sont de la montagne, si je suis né à Brerun, mais que mes parents sont venus vivre à Cologne. Réagissez, battez-vous, gagnez, vous en avez le droit. Avec moi, vos droits ne seront ni discutés ni abolis par des groupes d'égoïstes, des profiteurs, d'accapareurs qui veulent garder pour eux seuls les couvertures. Nous avons à créer une constitution afin de protéger la liberté de travailler pour des joyeux salaires, la propriété pour chacun, mais aussi, enfin, le droit d'exister en tant qu'homme, sans être réduit parfois au rang des bêtes les plus méprisables. Ralliez-vous à moi, je vous assure, en avenir de gloire, le plaisir de dire « Nous sommes citoyens d'Athènes et personne ne pourra contester notre supériorité dans le monde grec. Et c'est à Pisistrate que nous le devons. Nous vivrons comme au temps merveilleux de Cronos. » J'étais le premier à applaudir. Les ovations se répétaient, enflammaient le petit peuple. Chez les gens de la plaine, la rumeur s'amplifiait qu'il fallait falloir veiller au grain, voire se débarrasser de cet agitateur qui faisait tant de démagogie à petit prix, lançait des idées inconnues, menaçait l'avenir du commerce, du rendement des capitaux, tout ça pour une révolution inédite dont les suites seraient ruineuses pour la structure de l'État. Un matin, Pisistrate arriva sur l'agora au milieu d'une foule qui voulait l'entendre. Il marchait difficilement, une cuisse entourée d'un tissu ensanglanté. Tous deux, nous avions monté cette provocation. Le petit groupe de ses amis vint devant le portique de l'Archonte, roi réclamant sa présence. Cornéas arriva entouré de citoyens. Et dans ce groupe, Ariston, un autre ami de Pisistrate, proclama hautement une proposition. Cornéas, tu es archonte. Ton devoir est de protéger la vie de Pisistrate, parce qu'il est notre héros vainqueur sur les Mégariens. Il a été agressé par des gens qui lui en veulent de défendre les malheureux. Et pour cela, tu dois dire haut et fort, dans le conseil des 400, que tu décides de lui attribuer une garde rapprochée. Sinon, c'est nous qui nous en chargerons. Nous porterons alors armes ou gourdins pour le défendre chez lui et dans tous ses déplacements. Nous l'exigeons. présente à cette scène, Solon protesta. Je peux en témoigner. Un citoyen d'Athènes n'aura aucune garde rapprochée. Je dénonce ici un scandale. On doit pouvoir circuler seul dans la ville et au dehors en toute tranquillité. On est protégé par les lois. Cela doit suffire. Des magistrats veillent à la paix civile. Des hommes légalement choisis sont chargés de la faire respecter. Si un citoyen est agressé, il peut porter plainte et des juges ont le devoir d'apaiser les esprits. Mais qu'un homme seul, fût-il un héros de guerre comme Pisistrate, soit en permanence accompagné de gardes, je m'y oppose fermement. D'autres que lui ont pu être victimes de voisins, de concurrents irritables, d'ivrognes en goguette. Ils ne se sont pas entourés de gardes pour cela autant. Oui, Pisistrate, tu aspires à la tyrannie, entends-tu? Je refuse cette décision qui déshonore Athènes, ta famille, moi. Je ne t'ai pas éduqué pour faire de toi roi d'un nouveau genre, après qu'on a réussi à chasser les anciens. Réponds que tu ne veux pas de cette garde. Donne ta parole. Le peuple, très agité, couvrait de vociférations la dure critique de Solon. Pisistrate resta de marbre. Cornéas accorda à la garde rapprochée. La foule applaudit et acclama Pisistrate. Sa tyrannie prenait forme et je n'ai pas le dernier à souhaiter. Je connaissais l'homme et n'éprouvais aucun souci. Désormais, accompagné chaque jour, protégé chaque nuit par des citoyens en armes, avec leur accord, il décida de s'installer sur l'Acropole. Ainsi, leur dit-il, nous serons sous la haute garde d'Athéna, Promachos, et mal inspiré celui qui voudra s'attaquer à moi. Allons-y dresser les tentes, de quoi y vivre et doit y dormir. Nous inviterons les Athéniens à venir s'exprimer avec nous, à discuter des réformes à entreprendre et à convertir les gens honnêtes, afin que nous puissions enfin tous exister dans une Athènes glorieuse et forte. Il faudra que plus personne ne porte d'armes sans autorisation explicite. Bref, à la place des gouvernants corrompus, nous prendrons ensemble les rênes du pouvoir, car il est temps de faire le choix pour aujourd'hui et pour demain. Tous ceux qui l'avaient accompagné, suivi, approuvèrent. Chapitre 5. Pour Pisistrate, l'Acropole présentait trois avantages majeurs. D'abord, la vue à 360 degrés sur Athènes et tout mouvement éventuel de foule, soit dans les marchés, soit près des divers temples. Ensuite, être en hauteur donne plus de force en cas d'intervention. Enfin, la vue sur la mer, sur le Pirée et jusqu'à l'île Salamine. Le seul inconvénient était le manque d'eau, qu'il fallait faire monter à grands frais par des porteurs. Et Pisistrate me chargea de faire creuser des puits. Ayant posé la question à le puisatier du côté du mont Lycabette, il restèrent très dubitatif. Mais comme j'insistais, ils se mirent au travail. Le rocher était si dur qu'ils me déclarèrent que cet effort était vain, ou qu'il faudrait y passer des années sans être sûr d'un résultat concluant. L'idée fut abandonnée. Tant pis, la statue d'Athéna Promachos suffisait. Elle nous protégerait de toute puissance en donnant du courage à nos porteurs d'eau. Pisistrate me consulta au sujet des tentes qu'il avait prévues. Or, je lui répondis qu'il valait mieux utiliser de vieux bois d'échafaudage et en construire des cabanons moins sensibles à des vents venus de partout, surtout depuis la mer. Il acquiesça, et nos gardes, qu'on appelait porte-gourdins, se mirent au travail autour du temple érigé jadis en l'honneur d'Érecté. Et c'est ainsi que la vie s'organisa tant bien que mal, et avec une rigueur militaire. En soirée, je rassemblais tout le monde, et on entamait les discussions sur l'avenir, la future constitution, les droits, les contraintes, les libertés. Nos gardes y prenaient une part active. Beaucoup d'entre eux ne manquaient pas d'idées, ce qui réjouissait Pisistrate, il faisait entrevoir un futur glorieux pour Athènes. Ces échanges duraient tard et même pendant mes gardes de nuit. Les idées les plus farfelues ne me faisaient pas peur. Certains allaient jusqu'à réclamer un massacre général afin de refonder une Athènes anarchiste. Or, après un bon mois de notre installation, alors que je montais une sorte de surveillance du haut des escaliers d'accès à l'acropole, j'aperçus Solon et ses amis. Malgré sa forte complexion, ses efforts l'essoufflaient. Quand encore de loin il m'aperçut, de sa grande voix, il me dit « Alors, il est là ton copain Pisistrate, il faut que je lui parle. » « Oh, sûrement, il sera très heureux de te voir. » Très vite, je suis allé avertir Pisistrate. Ostensiblement, il s'inclina devant Solon en donnant le nom de « mon maître ». « Alors, tu optes donc pour la tyrannie, mon pauvre petit. Mais t'es rendu compte de ce que tu fais? Tout ce que j'avais réformé dans Athènes, tu le mets à bas. Tu veux rétablir notre royauté que nos ancêtres avaient réussi à chasser après maintes luttes. Mais tu n'aurais aucun respect pour tes ancêtres et ceux qu'ils ont choisi pour la conduite de notre peuple. Tu te considères comme un envoyé des dieux. Mais te placer sous la protection d'Athéna Promachos ne te donne aucun droit de plus que nous autres. La victoire sur les Mégariens ne t'autorise pas à t'en attirer la gloire à toi seul. Vous étiez plus de 1000 à vous battre, et le soutien de tes amis ne justifie en rien ce pouvoir que tu veux exercer sur les Athéniens qui n'ont pas forcément les mêmes souhaits, les mêmes obligations. Car des Athéniens ne sont pas de ton avis. Tu veux défendre les Diacriens. Les pauvres, dis-tu, mais pourquoi appauvrir les riches pour autant? Pourquoi entretenir les tensions sociales? Pour en tirer un pouvoir exclusif? Pour imposer ta seule vision de la politique. Mais ta famille a de l'aisance, en veux-tu plus encore et encore? Mais tu ferais table rase de mon enseignement. Si tu ne changes pas de comportement, mon enseignement n'aura servi à rien. Eh bien, rétorqua Pisistrate, ta sagesse est trop ancienne, je la respecte. J'en ai gardé des leçons. Je ne cherche pas à donner un coup de balai. Ce que mes amis et moi nous voulons, c'est une Athènes qui impose à toute la Grèce que notre patrie rayonne comme le modèle à suivre, que les cités de l'Ionie, de la Thessalie, de l'Eubée et du Péloponnèse nous rejoignent pour organiser un empire capable de rivaliser avec celui de la Perse, voire de la conquérir. Il ne s'agit en rien de te trahir. Je veux aller plus loin, faire mieux, transmettre au monde entier, par nos colonies et nos voyages, la plus haute culture, la science, la société, la littérature, enfin tous les arts. Athéna est déesse de l'intelligence, de la victoire sur la mort, la déesse de l'éternité. Non, il y a trop de misère, trop de vie difficile, trop de souffrance dictée par les classes dirigeantes, lesquelles possèdent les terres, les ressources, l'argent. Leur compte est réservé aux puissants, à des tirages au sort qui ne sont suspects. Oui, on tire au sort sous prétexte que la crise est inspirée, chose est inspirée par les dieux, alors que les jurés tirés au sort ne sont pas ce qu'ils appartiennent au groupe que les dieux protègent, et non parmi les plus méritants d'entre les citoyens. Démocratie, non. Le pouvoir reste aux seules mains de la finance. Pas de générosité, pas d'école pour tous, pas de soins aux indigents, pas de justice. Les condamnations, seuls les riches y échappent. On juge les infractions en fonction des revenus. Certes, tu as fait beaucoup, et c'est bien, mais ce n'est pas assez. Je t'ai déjà dit maintes fois, quand j'avais 20 ans, et je persiste dans ma critique. As-tu pensé à la morale civique? As-tu réformé dans ce sens? As-tu entraîné les citoyens vers un respect scrupuleux de notre religion? Non! Tu as dévalué la monnaie, classé les gens selon leur fortune, tenu aucun compte de la valeur humaine des uns et des autres, et voilà ce qui manque à ton action. Il faut y remédier, voilà l'urgence. Tyrannie, dis-tu, eh bien, si la tyrannie peut répondre à cette urgence, je la prends sur moi, je n'hésite pas un instant à proclamer mes intentions. L'avenir jugera. Déjà vieux, maintenant désespéré par les propos de Pisistrate, Solon rompit le dialogue, redescendit de l'acropole, pria Athéna de veiller à la sauvegarde de l'Attique et de la cité chère à son cœur. Dans un premier temps, Pisistrate regretta sa réponse vigoureuse à Solon. Il avait peut-être blessé ce maître qu'il avait formé, qu'il avait cultivé avec amour et patience, un guide extraordinaire, un homme vrai, simple, direct, que bien des jeunes n'avaient pu connaître aussi près. Mais la situation d'Athènes exigeait une force nouvelle, un nouveau guide montrant la voie pour l'avenir. Une organisation infaillible, indiscutable, fière et juste. Oui, Athènes avait besoin d'une tête puissante, pensante, revêtue d'une autorité acceptée et nécessaire. Avec ses amis présents, il décida de s'attacher au plus vite à ce travail qui devait commencer par le contrôle de toutes les magistratures, à savoir les compétences. Des citoyens simplement tirés au sort au nom de l'égalité totale n'avaient parfois aucune capacité requise, ne savaient même pas lire, s'embrouillaient dans les lois dont certaines leur échappaient et rendaient souvent des verdicts sans rapport avec le sujet du procès. On aboutissait à des contestations sans fin. Des appels interminables, de l'agitation sociale. Les partis intervenaient. L'argent l'emportait sur la justice. Les trésoriers ne savaient pas compter. Les erreurs étaient courantes, le trésor ne s'y retrouvait plus, le gaspillage n'était pas rare. Pisistrate imposa aux dèmes l'obligation de choisir les futurs tirés au sort, éviter ainsi l'absurdité, voire la sottise de quelques-uns. Il fallait procéder à de véritables examens, des dokinasies, pour évaluer la santé mentale des concurrents, leur aptitude physique, leur connaissance des lois et de la religion. Si la démocratie en souffrait dans ses principes, tant pis. Un minimum d'autorité relevait de la pure nécessité pour la bonne marche de la société en général. Les plus intelligents soutenaient Pisistrate, d'autres l'accusaient de tyrannie, en particulier chez les traditionalistes têtus. Et Solon en faisait partie. Déjà fort âgé, en pleine agora, il asséna quelques vérités. D'abord que lui-même était plus sage que les autres et plus courageux que les autres. Vous ne voyez pas que Pisistrate veut vous imposer un pouvoir à lui seul? Moi qui vous parle, j'ai réformé ce qu'il fallait réformer. J'ai porté secours aux malheureux. Vous avez accepté mes propositions parce qu'elles vous ont semblé bonnes pour notre patrie. Enfin, vous certains restent aveugles en face de cet homme qui ne cherche qu'à vous abuser. Mais à vous voir là rassemblés, je constate que mes exhortations sont lettres mortes. Bien, je rentre chez moi. C'est tout ce qu'il me reste à faire dans ces circonstances. Un cortège se forma. On accompagna Solon de vociférations diverses, qu'il était le seul à se prendre pour un sage, qu'il était un vieux du temps passé, qu'il ne comprenait plus rien à la société nouvelle, et qu'il ne voulait défendre que ses intérêts et ceux de sa classe. Calmement, Solon rentra dans sa maison, mais ne tarda pas à ressortir. Tremblant légèrement sous le poids de ses armes qu'il avait revêtues, il se débarrassa et les suspendit au-dessus de sa porte. Eh bien voilà, leur dit-il. Ce que vous voulez, ce n'est plus mon affaire. Par ce geste, je vous déclare que je ne suis plus citoyen d'Athènes. Il ne me reste qu'à mourir dans la désolution. L'avenir me donnera raison. Informé du geste de Solon, inquiet, Pisistrate arriva et frappa à la porte de son vieux maître. Ah, c'est toi, lui dit Solon, bravo. Alors je te donne mon dernier conseil. Si tu veux bien l'écouter, va, Delphes, lève tes yeux vers le fronton où est écrite la seule sagesse que je prêche depuis des années. Rien de trop. Médite, mon petit, médite longtemps sur ces mots dictés par les dieux. Tu sais que nos poètes représentent des héros purs, ni car leurs âmes ont été coupables de démesure, chose contre laquelle je t'ai toujours mis en garde. Tu le sais, mais tu persistes dans cette voie. Malheur à nous tous. Non, Solon, mon maître. Oui, c'est bien Solon qui te parle. Je te renie devant témoin. Je suis forcé de le dire haut et fort. Tu me déçois. Alors, Solon se brouilla avec cet homme en qui il avait décelé une intelligence hors du commun. Il refusait d'accepter des réformes brutales. Ce pouvoir nouveau lui semblait hors de la sagesse, une modération efficace, il est vrai. Le temple d'Apollon à Delphes portait en inscription rien de trop. Pour Solon, Pisistrate dépassait les bornes, violence pour violence, et Pisistrate de se rayer et se résigner devant un des grands sages de notre Grèce. Ce ne fut pas tout. Soudain, une grande manifestation dans toute la ville réclama le départ de Pisistrate, sous prétexte qu'il aspirait à la tyrannie. Ce mouvement était organisé par Mégaclès, chef des gens de la plaine, et Lycourgos, celle des gens de la côte. Un décret d'exil lui fut présenté par l'archonte Égésias. Pris de peur et obligé de se soumettre, Pisistrate rassembla le plus gros de ses fidèles, une centaine avec épouses et enfants. Avec eux, il discuta du parti à prendre. Personnellement, j'ai insisté pour faire savoir ouvertement dans toute l'Attique cette disgrâce officielle. Et Pisistrate accepta aussi ma proposition de rejoindre le golfe Thermaïque. Je connaissais déjà ce lieu presque désert. Nous pourrions y construire un nouvel État, conforme à nos idées, persuadé de revenir dans Athènes tôt ou tard. J'avais pensé au golfe de Thermaïque parce qu'il est grand. Aucune ville importante ne pouvait ni gêner ni accueillir de nouveaux arrivants. Sur ses côtes, quelques hameaux de pêcheurs. Les terres sont à défricher, mais semblent de qualité pour la culture. Proche, vers le nord-ouest, la Macédoine. Des barbares, plus ou moins gouvernés par un chef de clan totalement ignoré des Athéniens. Non loin, il y a Thessalonique, mais la ville est un petit comptoir sans intérêt immédiat pour Pisistrate et ses amis. On y remarque quelques Grecs d'ici ou là. Des Macédoniens, des gens venus de la Thrace, à l'est, vers les Détroits. Encore à l'est, on pourrait rejoindre la Troie, si célébrée dans l'Iliade. À quoi bon pour l'instant? Ce qui urgeait, c'était d'aller quelque part. Il y avait tout à faire. Alors, on arrive, on s'installe. On construit des maisons de torchis en attendant mieux. On travaille, on cultive, on pêche et on vit de très peu. Habitué depuis longtemps à un certain luxe, Pisistrate encourage ses amis à faire toujours plus. Alors on explore les environs. On a bien remarqué que les rares gens du coin ont de la monnaie. Elle vient bien de peuplades ou des mines. De l'étain, du plomb, de l'argent en quantité. La valeur en est mince, mais nous, les Athéniens, nous avons des projets. Les Phéniciens nous en ont donné. Il va falloir savoir où se trouvent ces mines dans lesquelles les autochtones extraient les métaux, voir comment exploiter cette ressource. Et si on frappe monnaie, on gagne de l'indépendance, un début de force vive. Avec de l'argent, on construira même des bateaux. On va circuler, échanger, conquérir, s'imposer. On ira jusqu'au Pirée pour narguer Athènes. Vous avez évincé, mais voici la preuve que nous n'avons plus besoin de vous. Dans peu, on entendra parler de Pisistrate. Entre vous, ce ne sont que des batailles, des contestations, des règlements de compte. Et chez nous, tout va bien. Comme notre petite ville prenait de la taille, il fallait lui donner un nom. Parmi les discussions, fut proposé le nom de Raikelos, parce que cette ville nouvelle représentait une sorte de sursaut. une reprise en main du destin. En effet, le verbe raizo signifie se reprendre, regagner ce qu'on a perdu. Et kelomai signifie donner un nom, appeler. Or, c'était bien ça que Pisistrate et ses amis avaient fondé, la ville de la réussite. Nous étions arrivés démunis du nécessaire. Nous avions à repratiquer la maçonnerie, la poterie, la forge, creuser des puits, caper des sources, aller à la chasse, élever des brebis, tondre leur laine, tisser. Et pour lui, éclairer les lampes, on verrait plus tard. Ce qui avait été le plus urgent, c'était justement le manque d'argent. Le courage ne suffit pas. D'où l'obligation de fabriquer notre propre monnaie. Et par hasard, nous avons appris que des mines se nichaient dans les flancs du mont Pangé, situé au sud du golfe. Des mines à fleur de sol. Pas besoin de trop creuser. Se baisser suffisait. Les plus solides d'entre nous se proposèrent à Pisistrate comme mineurs. D'autres installèrent leur premier four afin d'opérer les amalgames des piscines comme aciéries. Car il fallait aussi se fabriquer des outils, des armes, tourner de la poterie. On y a bâti les plus grands résineux après apte à la taille des poutres de maison, des planches, des meubles, des marches de vaches et de pioches et des mâts de trières. Pisistrate remarque très vite l'intérêt que ses amis et lui pourraient tirer de cette exploitation. Le commerce de bois et des métaux allait les enrichir. Il y aurait bientôt des Athéniens venant acheter les prix montrés et les terres commencèrent à produire du blé et autres céréales. Cette colonie prenait la forme d'un état redoutable. Dans Athènes, Pisistrate se ferait regretter. Son souhait le plus cher. On en avait exclu. Avec lui d'ailleurs, tout allait au mieux. Il avait l'avenir devant lui. Les autres, le marasme, les querelles, la pagaille. 5 ans après la fondation de l'Aikelos, Pisistrate put enfin s'embarquer sur un bateau de son bon tonnage. Avec nous, ses amis les plus proches. Il quitta son golfe, s'engagea au sud jusqu'au détroit de l'Euripe, entre l'île de Leubée et la Grèce continentale, afin d'accoster à Chalcis, en Étrurie. Ces villes étaient déjà connues par leurs marins de haute expérience. Ils avaient emmené jusqu'en Italie, en Gaule, en Sicile, de nombreux colons. Néapolis, Massilia, Nicée, Syracuse. Et de ces colonies était née une richesse très enviable dont les Euboéens avaient amplement profité. Bonne leçon à écouter. Même à Athènes, on avait parlé. Certes, les gens de l'Eubée avaient des terres presque impossibles à exploiter, une montagne de cailloux, raison pour laquelle beaucoup décidèrent de quitter l'île et d'aller s'établir ailleurs, un peu comme Pisistrate, mais dans des pays moins froids et de ressources plus importantes. Les expéditions des Phéniciens, encore eux, les avaient inspirés. Ils avaient fondé la puissante Carthage. À Érythrée, on parlait un grec ionien, aux accents proches de l'Attique. Pisistrate n'était pas dépaysé. Les discussions allaient bon train. Calcis, l'autre ville de mai, avait le même esprit de conquête. Pisistrate, il fut aussi accueilli à bras ouverts avec sa tournure de gageur qu'il avait. Ses discours parurent persuasifs. Il alla jusqu'à proposer d'y former une armée solide, expérimentée, d'établir un contrat de longue durée. En Eubée, on savait que Pisistrate s'était montré officier général de talent. Un amiral à qui la réussite avait souri au moment de l'affaire de Mégare. Le béat de Chalcis et d'Érythrée, je vous sais fier, habile, courageux, réputé pour votre science navale. Me connaissez pour être un élève du grand Solon. Si je n'ai pas toute sa science, j'ai acquis sa prudence. Les vôtres sont partis à la conquête du monde. Vous avez la thalassocratie, preuve de votre force doublée d'ingéniosité. Et dans toute la Méditerranée, on parle de vous avec admiration, avec respect. Oh, je ne vous cache pas que je vois en vous un modèle de civilisation. À vous voir, à échanger avec vous, j'ai formé le rêve d'une alliance merveilleuse entre l'Eubée et notre Raikelos. Dans les colonies, Chalcis et Étrerie sont des références. Vous avez la science navale. Mes amis et moi, nous avons les mines du Pangée et de l'argent à foison. Alors vous allez me demander pourquoi je suis parti d'Athènes, ville que l'on dit florissante, ici ou là. Mais, par tous les dieux de l'Olympe, je ne suis pas parti. On m'a exilé. Pourquoi? Parce que je voulais que les réformes de Solon soient appliquées à la lettre. Or, comme lui, je me battais pour que les riches ne contraignent plus les pauvres à rester pauvres. Je voulais un contrôle strict des magistrats. Vous pensez bien que les plus riches m'haïssaient. Non, je ne suis pas parti. On m'a chassé, menacé de mort. Il a fallu que je me cache, que je fuis de nuit avec des amis sûrs. Ce sont les chefs de groupe puissants, Mégares et Lycurgos, qui me menaçaient ma vie. J'aimais Athènes. J'aimais les petites gens, parce que je ne supporte pas l'injustice. Et ce fut ma triste récompense. Depuis mon départ, les troubles continuent. Je n'y puis plus rien. Mais grâce à vous, peut-être, nous arriverons à rétablir dans Athènes une démocratie véritable. Il est temps de la construire par une constitution enfin respectée, mais juste, que toute la population profite d'un bonheur honnête et pour longtemps. Je n'ai plus que vous sur qui compter. Mes concitoyens doivent vivre libres, comme vous. Pisistrate tint ce genre de discours autant à Chalcis qu'à Érythrée. Il recueillit des applaudissements, outre la promesse qu'on allait recruter une armée. Puisqu'il faudrait partir pour une conquête encore plus glorieuse que des colonies, qu'on participerait à la grandeur d'Athènes, on assura Pisistrate de l'aide qu'il attendait. Son argent, ses mines du Pangée, emportèrent l'adhésion des amateurs, des militaires, du peuple béen, commerçants compris. Confiant dans un avenir qu'il espérait glorieux, pressentant qu'un retour à Athènes n'était pas impossible, préparant de nouvelles réformes, un art nouveau de gouverner, sur qui les Athéniens regrettaient amèrement son absence, Pisistrate prit son bateau afin de revenir à Raikelos. je l'y attendais avec la très mauvaise nouvelle. Solon est mort. Levant les bras vers le ciel, tombant à genoux, Pisistrate hurla de douleur. Il se sentit soudain coupable de trahison envers ce maître vénéré. Levant les bras vers le ciel, tombant à genoux, Pisistrate hurla de douleur. Il se sentit soudain coupable de trahison envers ce maître vénéré. Solon, Solon, s'écria-t-il. Zeus m'est témoin que je n'ai jamais cherché à te faire la moindre peine. J'ai été pour toi un élève respectueux et d'une fidélité à toute épreuve, tu le sais. Oui, je me suis affirmé devant toi. Oui, j'ai osé te dire que ton travail était insuffisant, qu'il y avait plus à faire. Et tu m'as répondu que j'en faisais trop, que je ne respecte pas l'ordre inscrit sur le temple de Delphes. Et pourtant, j'étais très conscient des risques. Peut-être est-ce toi qui as poussé les autres à me faire partir de notre ville. Mais je ne puis le croire. Tu m'aimais assez, tu me conseillais, tu avais mis en moi l'espoir que tes réformes seraient appliquées. Mais pourquoi es-tu parti chez Hadès sans m'avoir appelé auprès de toi, sans avoir voulu ma présence au moment de ton agonie? Non, c'est moi qui aurais dû savoir que ton cœur souffrait, qui aurais dû tout faire pour te demander ton pardon, ton affection éternelle, ta bonté de me comprendre. Oh non, Solon, Solon, tu aurais été à mes yeux et à mon esprit le seul grand sage à suivre, à imiter durant ma vie. Mais pourquoi as-tu laissé les gens de rien me chasser? Oui, j'aurais dit ce pourquoi parce que je ne méritais pas cet opprobre. Tu sais que jusqu'à ma mort, je te resterai ton plus fidèle soutien. Solon, ta mort est ma blessure, violente, terrible, ma punition. Oui, je t'en veux de ne pas m'avoir appelé à ton chevet. J'aurais pris mon cheval le plus rapide pour courir vers toi, me précipiter à tes genoux, te jurer que je suis ton fils à jamais. Oh, Solon, c'est dans mes bras que tu aurais dû rendre ton dernier souffle. Personne n'osa interrompre le seuil de l'œil de Pisistrate. Tenter de le consoler, si grande était sa douleur, comme impossible à supporter.